Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, édition spéciale consacrée donc à la guerre en Ukraine jusqu'à 13h30. Et c'est vrai, ce sentiment que nous entrons aujourd'hui dans un autre monde. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La Russie est donc passée à l'offensive très tôt ce matin. Nous allons vous faire vivre cette actualité grâce à nos envoyés spéciaux, vous le disiez Pascal, à la mobilisation de tous nos journalistes, reportages, analyses, mais aussi des invités pour comprendre ce en quoi ce 24 février 2022 marque le début d'une guerre en plein cœur de l'Europe. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, la guerre en Ukraine justement. La France, selon vous, doit-elle intervenir? Vous dites oui à 19%, non à 70%.
RTL Midi,
édition spéciale.
Ils ont franchi la ligne rouge, c'est pour cela que j'interviens dans le Donbass. Que ceux qui tenteraient de gêner ou encore de menacer la souveraineté de notre pays ou de notre peuple sachent que la réponse de la Russie sera immédiate et qu'elle aura des conséquences telles qu'ils n'en ont encore jamais connues dans leur histoire.
Il était 4h10 ce matin lorsqu'un message de Vladimir Poutine a été diffusé à la télévision russe. Offensive sur le Donbass, dit-il, mais pas seulement, puisque dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev, de très fortes détonations ont été entendues.
En fait, on s'est fait réveiller par des explosions et ça a continué toutes les 5-10 minutes. Des bruits sourds lointains faisaient trembler assez pour que les voitures en bas de l'immeuble se mettent à faire sonner l'alarme. Quoi. Au début, on a un peu paniqué, on ne savait pas trop quoi penser. Beaucoup de gens ont pris la voiture pour partir de Kiev. Il y a des gros embouteillages là autour de nous. J'ai préparé toutes nos affaires, donc pas de petits sacs avec juste les affaires nécessaires si jamais on doit partir vraiment très vite. On a aussi préparé à manger, à boire. Il y a des abris anti-bombes pas loin de chez nous, donc si jamais il y a une sirène qui retentit, on ira.
David, un Français qui se trouve à Kiev, joint par Thibaut Demarle pour RTL. Kiev, c'est là aussi où se trouvent nos deux envoyés spéciaux, dont vous, Mourad Djabari. Bonjour à vous.
Bonjour.
Les bombardements ont commencé cette nuit, donc il y en a également eu ce matin. Comment réagissent les habitants de Kiev?
Eh bien, ils sont plutôt surpris, évidemment, parce que nous avons entendu, nous aussi, de fortes détonations il y a quelques minutes. On a l'impression, vraiment, que les bombardements se rapprochent de la capitale. Ce matin, avec mon collègue, avec Gauthier, on est sorti, on est parti dans les rues de Kiev à la rencontre des habitants pour connaître leurs ressentis, leur poser des questions.
Est-ce qu'elle a peur? Parce qu'on a entendu des bombardements ce matin, pas loin de Kiev. L'armée russe est entrée en Ukraine.
Voilà, vous entendez une énorme détonation qui semblait assez proche de nous, mais on était visiblement les seuls à être surpris. Les habitants n'ont presque pas sursauté, bougé. Ce bombardement, c'était dans un quartier résidentiel de Kiev. D'autres frappes ont eu lieu à 25 km à l'est de Kiev, dans une ville. Le maire fait état de 6 morts, et puis il y a eu aussi des frappes à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Bref, la situation se tend aux alentours de Kiev. La population s'organise, comme Oleg, qui a tenté d'aller se ravitailler à l'épicerie du coin.
Ce matin, je suis allé dans mon épicerie, c'était de la folie. Il n'y avait déjà plus de pain, plus de gâteaux, plus de fruits, des rayons vides. J'ai rarement vu ça.
La population s'organise et tente de fuir aussi la capitale par la route, ce qui crée des bouchons énormes à la sortie de Kiev.
Merci beaucoup Mourad Djabari, en direct de Kiev pour RTL. Vous restez avec nous évidemment durant cette édition spéciale, tout comme Gauthier Delon-Bugard. Les dernières informations factuelles, c'est aussi avec vous Bénédicte Tassard, avec d'abord le dernier bilan concernant les victimes.
Oui, et le palais présidentiel ukrainien confirme une seconde salve de missiles qui s'abat sur l'Ukraine depuis 11h30. 6 morts déjà, selon le maire de Brovary, à 25 km à l'est de la capitale. Ça bombarde aussi au nord-ouest de Kiev. Et le bilan de la première attaque tôt ce matin, 40 soldats et une dizaine de civils tués, selon la présidence ukrainienne, à travers l'ensemble du pays, par des frappes aériennes et par des missiles. On rajoute 18 morts à Odessa, sur la mer Noire, selon les autorités régionales. Maintenant, l'armée russe avance dans le Donbass. C'est du moins ce qu'elle précise ce midi. Face à l'armée de Kiev, les séparatistes pro-russes ont gagné 3 km dans la province de Donetsk, plus d'un kilomètre dans la seconde province du Donbass, Lugansk. L'invasion se fait donc par la frontière russe, mais aussi par la frontière avec la Biélorussie. Là aussi, de nombreux blindés moscovites sont entrés sur les routes ukrainiennes. Du côté de Kiev, on affirme avoir abattu 6 avions, un hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une cinquantaine de militaires.
Alors, parmi les nombreuses réactions ce matin, voulez-vous faire entendre celle d'Ursula von der Leyen, pardon, la déclaration de la présidente de la Commission européenne empreinte de gravité.
Le président Poutine replonge l'Europe dans la guerre et dans ses heures sombres, l'Union européenne et ses peuples soutiennent l'Ukraine et sa population. Nous faisons face à une attaque sans précédent par les dirigeants russes contre un pays souverain et indépendant. La cible de la Russie, ce n'est pas seulement le Donbass, pas seulement l'Ukraine, mais la cible, c'est la stabilité en Europe et le maintien de la paix internationale. Et nous tiendrons le président Poutine responsable de cela.
Voilà, concrètement, quels sont les prochains rendez-vous, Bénédicte, au niveau de l'Europe, mais pas seulement aussi, au niveau du G7.
Oui, au niveau mondial. G7, sommet européen en physique pour les 27, puis sommet de l'OTAN, demain, en visioconférence. Les puissants de ce monde vont se concerter, donc, cet après-midi, ce soir, demain, il s'agit d'aider l'Ukraine financièrement et matériellement, de renforcer, bien sûr, notre sécurité face à la Russie et de sanctionner plus lourdement Moscou.
Merci, Bénédicte Tassar. Vous restez avec nous, bien évidemment, pour cette édition spéciale. Nous repartons à Kiev rejoindre notre autre envoyé spécial, Gauthier Delon-Bugard. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Dites-nous, on imagine bien que les habitants sont pris d'une panique avec tout ce qui se passe depuis quelques heures maintenant.
Effectivement, c'est d'abord pour certains la ruée dans les supermarchés pour faire des provisions, pour les mettre chez eux, parce qu'ils vont peut-être être confinés pendant plusieurs jours, voire plus longtemps. Nous sommes allés tout à l'heure dans un supermarché à côté de notre hôtel. Il n'y avait plus, par exemple, les produits de base, il n'y avait plus de pain et beaucoup de monde dans la file d'attente pour prendre des provisions avec, bien sûr, des sacs remplis de nourriture. Et puis, il y a aux abords de Kiev toutes ces voitures, tous ces véhicules, ces familles qui tentent de fuir. Elles ont fait leurs valises à la hâte pour partir, quitter la ville, tenter de fuir les bombardements qui se rapprochent de Kiev. Il y a eu deux explosions dans la capitale, deux explosions de basse intensité. Visiblement, seulement des bâtiments ont été endommagés, mais il y a eu des attaques de bien plus grande intensité aux abords de Kiev, à 60 km notamment, et puis à l'est, à 25 km. On déplore 6 morts, selon le maire de la ville. Vous le comprenez, la panique commence à gagner la capitale, même si certains habitants nous disent qu'ils vont rester. Ils vont rester parce qu'ils n'ont pas le choix, et d'autres nous disent aussi qu'ils sont prêts à se battre les armes à la main.
Merci beaucoup Gauthier, on vous retrouve d'ici quelques instants dans cette édition spéciale. Premier invité avec nous, Frédéric Ancel, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Frédéric Ancel, on a l'impression que tout s'est enclenché, hein, d'heure en heure, c'est de plus en plus fort, que ce soit au niveau des bombardements, au niveau de l'offensive terrestre, c'est la guerre.
C'est la guerre pour l'instant de basse intensité, pardon d'employer ce terme très très pragmatique, hein, qu'on emploie souvent en géopolitique lorsque on a affaire à un ou deux ou trois belligérants qui pour l'instant en tout cas n'emploient pas l'intégralité de leurs capacités. Vous imaginez bien que l'armée russe c'est davantage que ce qui se produit aujourd'hui. Néanmoins, vous avez raison, c'est un schéma d'hostilité, donc oui, c'est la guerre.
Tout le monde semble surpris ce matin de cette offensive, mais est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait ?
Alors, oui et non, parce que Poutine dit beaucoup de choses et une partie de sa sémantique, une partie de sa rhétorique, lui qui est un véritable stratège, adepte du grand stratège prussien Clausewitz, je le rappelle, il nous dit des choses parfois pour qu'on les croit, parfois pour nous fourvoyer. Et ce qu'il a toujours dit notamment, c'est que la chute de l'URSS avait été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Intéressant. Il a toujours affirmé que l'Ukraine, en réalité, était une création artificielle, hein, même s'il a employé d'autres mots à plusieurs égards. Deuxième chose importante. Et puis la troisième, c'est qu'il ne laisserait jamais, ou plus jamais, lui qui est au pouvoir depuis 99-2000, l'OTAN, les Occidentaux de manière générale, les Européens qu'il méprise souverainement d'ailleurs, avancer à l'Est. c'est-à-dire évidemment avancer vers l'Ukraine, enfin la Biélorussie, voire même la Géorgie, dont je rappelle qu'il avait croqué une partie en 2008. Donc si vous voulez, quand on analyse les discours de Poutine, oui, bien sûr, on pouvait imaginer qu'il irait loin, mais vous savez, en 2014, il est déjà allé loin. Vous vous en souvenez, il avait annexé littéralement la Crimée et il avait occupé une partie du Donbass. Donc là, il va encore plus loin, mais je dirais que sa logique générale, au fond, elle n'est pas très nouvelle, elle est assez cohérente.
Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et vous publiez cette semaine, je le rappelle, Les Voix de la Puissance aux éditions Odile Jacob. Nous prenons maintenant la direction de l'Élysée puisqu'un conseil de défense a eu lieu ce matin pendant une heure et demie environ autour d'Emmanuel Macron. Vous êtes sur place, Vincent de Rosier, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que l'on sait ce qui s'est dit durant cette réunion exceptionnelle ?
Oui, premier point à l'ordre du jour, quelle riposte française et européenne. L'Élysée nous confirme que la réponse des 27 sera extrêmement ferme et coordonnée. Donc pour les détails, il faudra attendre les échéances dont vous parlez Bénédicte Tassard à l'instant, la réunion du G7, puis le Conseil des 27 pays européens ce soir à Bruxelles. Emmanuel Macron va également renforcer le soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes, comprenez financier, logistique et militaire. L'Ukraine a encore réclamé l'aide de la France ce matin. Le président Zelensky a décrit une situation de guerre totale à Emmanuel Macron et la France fournira donc plus d'armes et plus d'argent à l'Ukraine. Et puis dernier point abordé ce matin, l'aide d'urgence à apporter aux ressortissants français. D'après l'Élysée, ils sont encore entre 5 et 600 sur place et la France ne veut oublier personne. Tout ça, le chef de l'État va le dire directement aux Français. Le président va s'adresser dans quelques minutes aux Français. Une allocution courte enregistrée à l'Élysée à l'issue du Conseil de défense ce matin. Et le président qui pourrait même décider de s'adresser à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Une allocution d'Emmanuel Macron, évidemment, que nous vous ferons vivre donc à partir de 13h durant cette édition spéciale. Depuis l'offensive ce matin, évidemment, dans la classe politique française, condamnation quasi unanime, Marie-Bénédicte Allaire. Alors commençons par ceux qui condamnent fermement l'offensive russe.
Effectivement, la plupart des responsables politiques français n'ont pas de doute. L'agresseur est bien la Russie et la condamne. Valérie Pécresse demande des sanctions européennes sévères. Yannick Jadot veut qu'on livre des armes à l'Ukraine. Et puis, trois des candidats, jusqu'ici beaucoup moins sévères, durcissent le ton vis-à-vis de la Russie. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Tous les trois reconnaissent la responsabilité de Moscou. Éric Zemmour avoue même qu'il s'est trompé en ne croyant pas à l'invasion. Et tous les trois appellent de leur vœu une initiative diplomatique de la France.
Alors on disait condamnation quasi unanime, Marie-Bénédicte. Pourquoi quasi ?
Eh bien parce que certains se distinguent. François Fillon, qui siège dans les instances dirigeantes d'un groupe russe, condamne bien l'usage de la force en Ukraine. Mais il estime qu'elle aurait pu être évitée si les Occidentaux avaient pris en compte les préventions russes sur l'OTAN. Quant à Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, elle renvoie dos à dos la Russie et l'OTAN, qu'elle qualifie de fauteuses de guerre. Et elle lance ce cri des pacifistes d'avant la Première Guerre mondiale, à bas la guerre.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte. À l'ère du service politique de RTL, nous prenons la direction de l'ambassade de Russie, où nous attend cette fois notre journaliste Valentin Boisset. De nombreux Ukrainiens sont rassemblés devant le bâtiment depuis ce matin.
Oui, ils sont rassemblés à l'appel de collectifs d'Ukrainiens qui habitent donc à Paris. Et ici, l'agenda politique semble se précipiter ce matin. Pardon, Yannick Jadot, Christiane Taubira s'y sont rendus un peu à la dernière minute. La candidate a même pris la parole il y a quelques instants, estimant que la politique est désormais entre parenthèses, car la guerre est en Europe. Yannick Jadot prend actuellement la parole juste derrière moi. Une ambiance un peu étrange, je vous le cache pas, pesante. Le rassemblement n'est pas autorisé. Il y a donc ces prises de parole politique, puis des Ukrainiens en larmes à côté d'eux. Ce soir, plusieurs candidats iront au rassemblement Place de la République à l'appel des mêmes collectifs. D'autres candidats ont aussi des questions sur leurs agendas dans les jours suivants. Chez Éric Zemmour, on se demande par exemple si c'est une bonne idée de maintenir demain un déplacement en Savoie. La campagne semble donc un peu suspendue aujourd'hui à l'Ukraine.
Merci beaucoup Valentin Boisset pour RTL. On fait une toute petite pause et l'on se retrouve pour cette édition spéciale avec nos envoyés spéciaux évidemment en Ukraine ainsi que nos invités. À tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale.
Agnès Bonfillon, Pascal Praud. Agnès Bonfillon, Pascal Pro,
RTL Midi, édition spéciale.
Une édition spéciale jusqu'à 13h30 consacrée à la guerre en Ukraine. Direction Kiev, justement, nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, Morad Djabari. Morad, les bombardements, on a l'impression, se rapprochent de plus en plus de la capitale.
Exactement. En tout cas, l'intensité, la fréquence, je veux dire, des bombardements est plus faible depuis quelques heures. Elle était vraiment intense très tôt ce matin, juste après le discours de Vladimir Poutine. Mais il y a encore, depuis quelques minutes, des bombardements de faible intensité à Kiev. En revanche, dans la banlieue de Kiev, l'intensité est largement plus forte. Et d'après les journalistes locaux, ce sont des infrastructures, des bâtiments officiels qui sont visés dans une petite ville à 25 km de Kiev. Il y a eu 6 morts, d'après le maire. En tout cas, les autorités, la mairie de Kiev a envoyé des messages aux habitants très tôt ce matin pour indiquer aux habitants de prendre leurs affaires, de faire des réserves de nourriture, de prendre le strict nécessaire pour se diriger, s'il le faut, très vite vers les abris anti-bombardement qui se trouvent un peu partout disséminés dans la ville de Kiev. Il y a environ 5000 abris anti-bombardement dans la ville.
Merci beaucoup, Morad Djabari. Vous restez avec nous, tout comme Gauthier de Lombugard, en direct de Kiev. Les Ukrainiens, évidemment, qui vivent en France, eux aussi, sont très inquiets depuis ce matin. Je vous propose d'écouter Olga, qui vit à Strasbourg avec ses enfants. Elle a été réveillée, évidemment, cette nuit par les informations. Elle est très, très inquiète, en particulier pour son frère militaire à Kiev. Écoutez.
Je suis devant la télé depuis ce matin, devant les chaînes ukrainiennes. Et mon frère qui est militaire, ils sont en alerte depuis cette nuit. Je l'avais appelé ce matin, je l'ai eu au téléphone. Je peux, mais vraiment vite fait, au moins voir qu'il est vivant. Ils sont prêts à intervenir en cas de besoin. Et il est prêt à se battre, hein, et il n'est pas le seul. Il m'a dit tous les, même les plus jeunes soldats qui arrivent, même s'ils ne sont pas formés, mais ils ont un esprit patriotique qui est très très important. Je m'inquiète beaucoup pour ce pays parce que c'est un très beau pays avec des gens très gentils. Et c'est dommage qu'on ne veut pas nous laisser tranquilles. Voilà, vivre tranquillement et profiter de notre vie.
Des propos recueillis par Yannick Holland pour RTL avec nous en studio pour cette édition spéciale. Patrick Martin-Jeunier, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. On l'entend depuis le début de cette édition. On sent la surprise, et pourtant.
Oui, mais on sent la surprise, mais enfin, ce n'est pas du tout une surprise. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait dit qu'il ne fallait pas s'affoler, et qu'on ait surestimé le risque d'invasion. Et aujourd'hui, ça se produit. Or, Vladimir Poutine a toujours dit que l'Ukraine faisait partie de l'ancienne Union soviétique. Il a réagi, on a vu son discours cette nuit, qui est celui d'un homme finalement complètement paranoïaque, qui considère qu'on lui en veut, toute la Terre lui en veut, l'Ukraine lui en veut, et qu'il n'y aurait que des nazis, par exemple, qui seraient en Ukraine. Et donc, il est dans une optique, c'est extraordinaire de voir cet homme qui pense comme la guerre froide, comme la guerre. Il pense que l'Ukraine, ça faisait partie de l'Union soviétique. Et donc, il a un raisonnement de notaire, si vous me permettez l'expression, quelqu'un qui estime que l'Ukraine lui appartient. Pour lui, c'est un conflit patrimonial. Et donc, c'est injustement que l'Ukraine avait pris son indépendance. Et depuis le début, il dit qu'il veut récupérer ce bien qui lui a été injustement volé. Et donc, depuis le début, et d'ailleurs depuis 2014, l'année sont de fait de la Crimée et la reconnaissance des républiques séparatistes du Donetsk et de Lugansk, il veut récupérer l'Ukraine. Il commence par l'est de l'Ukraine et en effet, tout cela était parfaitement prévisible. Et j'en profite pour dire qu'on a dit que les États-Unis affabulaient complètement, qu'ils exagéraient le risque d'invasion. En réalité, c'est bien les États-Unis qui avaient les bonnes informations. Ils savaient dès le début que Vladimir Poutine voulait envahir l'Ukraine.
Et notamment la CIA, sans doute, qui avait les bonnes informations depuis quelques semaines, auxquelles oui. Le monde occidental ne croyait pas toujours. Mais les mots ont un sens, effectivement, et le mot « dénazification » est venu ce matin dans le vocabulaire de Poutine. Comment oui. Vous interprétez ce mot? Est-ce une volonté d'aller jusqu'à Kiev et de faire partir le régime qui existe aujourd'hui?
Ah oui, j'en suis vraiment persuadé. Il a parlé de démilitariser. Il est en train de le faire. Il démilitarise, c'est-à-dire qu'il attaque des infrastructures militaires. D'ailleurs, j'ai des informations selon lesquelles un aéroport près de Kiev aurait été pris par les Russes. Donc, il se rapproche de Kiev, ce qui confirme confirme les informations que vous avez données, des bombardements intensifs dans la banlieue de Kiev. Mais oui, considérant que l'Ukraine n'est pas un État tel qu'il l'entend, enfin que ça fait partie de l'Empire soviétique, si j'ose dire, eh bien, il veut récupérer son objectif. Effectivement, on l'avait déjà dit, cela avait été dit, qu'il souhaitait un changement de régime. Donc nous ne sommes pas à l'abri, dans un premier temps, d'une tentative de coup d'État. Les militaires qui se rapprochent de Kiev, finalement, ne veulent pas nécessairement tuer la population, mais je pense que dans leur objectif, il s'agit de renverser le régime pour mettre à la place du président Volodymyr Zelensky un président fantoche qui se rapprochera de la Russie.
À la manière de ce qui se passe avec la Biélorussie.
C'est exactement ça. La Biélorussie, on l'a bien vu, ce n'est pas un État souverain, c'est devenu un État vassal de Vladimir Poutine. Le président bélarusse est quelqu'un qui donc est proche de la Russie, qui a autorisé des manœuvres qui devaient prendre fin le 20 février. Et bien évidemment qu'elles sont restées là parce que l'ambition était très claire. Les missiles sont également partis de la Biélorussie.
Sauf que les Ukrainiens ne sont pas les Biélorusses, et que les Ukrainiens peuvent se révolter et ce sont des combattants hors pair et n'ont pas envie forcément des Russes sur leur sol. Comment vous imaginez ces prochaines heures et ces prochains jours ?
Alors, c'est vrai que, d'abord, pour parler de l'armée ukrainienne, c'est une armée qui est très affaiblie, qui est mal équipée. On a tardé à équiper cette armée.
Qui aurait été réformée quand même en 2014. Il y a beaucoup d'informations contradictoires sur cette armée ukrainienne. On dit parfois qu'elle est parfaitement corrompue. On dit autrement qu'elle s'est reformée depuis 2014 et qu'elle est plus performante. Plus jeune, notamment.
Voilà, elle est peut-être plus performante, mais pas assez pour faire face aux dangers russes, à l'armée russe. Je vous rappellerai que les Russes ont amassé entre 150 et 190 000 hommes à la frontière et qu'en quelques heures, ils peuvent prendre le contrôle de l'entièreté de l'Ukraine. Ceci dit, effectivement, vous avez raison, là où il y a un point important, c'est que le peuple ukrainien va résister. La résistance civile, citoyenne, avec l'état d'urgence qui a été décrété et l'état martial, chaque habitant a l'autorisation de porter une arme. Et je crois qu'on a sous-estimé cette capacité de résistance du peuple ukrainien qui ne veut plus de la Russie. Hier, je regardais les manifestations devant l'ambassade de Russie à Kiev. C'est formidable de voir ces jeunes qui affichaient les drapeaux de l'Europe en disant « Nous voulons l'Europe et non pas de la Russie ». Donc, et il y avait même des gens d'ancienne génération disant que finalement l'Ukraine était là bien avant la Russie. Donc je pense qu'il y a une unanimité pour résister. Et sur ce point, je crois que Vladimir Poutine a sous-estimé cette capacité de résistance civile et citoyenne.
Merci beaucoup Patrick Martin. Je n'ai resté avec nous pour d'autres analyses durant cette édition spéciale. Nous voulions faire un point sur l'avancée des troupes russes, justement, avec vous, Bénédicte Tassard.
Oui, et les victimes, déjà, des dernières informations, les troupes russes viennent de saisir le canal de Crimée, la centrale hydroélectrique de Kharkova. C'est tout au sud de la Crimée. Ça bombarde aussi à 15 minutes de Kiev sur un aéroport à Hostomel. Vous le disiez, c'est un aéroport de fret. Deuxième salve de missiles, dont 15 morts à Odessa, 6 morts et 12 blessés en banlieue de Kiev. Ça bombarde à Brovary. Des hélicoptères russes sont en train de survoler le nord de la capitale. Et puis, je le rappelle, il y a eu 50 morts ce matin lors de la première attaque tôt ce matin.
Merci beaucoup, Bénédicte Tassard. À tout de suite pour d'autres points très, très précis comme celui-là. On l'a entendu, les Ukrainiens ne pensaient pas que l'offensive arrive jusqu'à Kiev tout de suite comme ça, dans cette forme-là. Les Russes non plus n'y croyaient pas ce matin, figurez-vous. C'est la surprise pour eux aussi. Félix Grasso, vous êtes à Moscou pour RTL. Effectivement, les Russes ne s'attendaient pas à une offensive de telle ampleur.
Effectivement, ils ne s'attendaient pas non plus à une attaque aussi rapide. Beaucoup de Russes autour de moi sont sidérés du déclenchement d'une offensive aussi large. Mais certes, depuis la reconnaissance des républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk par Vladimir Poutine, ils anticipaient une opération militaire, mais plutôt limitée aux contours du Donbass. Selon un sondage d'il y a quelques jours, 73% des Russes soutiennent la reconnaissance de ces républiques par Vladimir Poutine. Ils sont 50% à estimer que Moscou a le droit d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et 43% seulement contre une utilisation de la force pour annexer l'Ukraine. Mais cela, c'était avant le début des combats. C'est une chose de penser à un conflit potentiel, mais on le sait, l'accumulation quotidienne des morts et des blessés produit en général des effets dévastateurs sur l'opinion publique. C'est sans doute pour cela que les chaînes russes d'information diffusent essentiellement des images des bombardements qui ont lieu dans le Donbass.
Félix Grasso à Moscou pour RTL. Et le Kremlin est très clair, Bénédicte Tassard. ça va continuer.
Ah oui, le Kremlin indique en ce moment que l'opération militaire contre l'Ukraine va durer le temps nécessaire en fonction de ses résultats et de sa pertinence. Il estime que les Russes vont soutenir cette attaque. Le porte-parole de la présidence russe, donc le porte-parole de Vladimir Poutine, affirme aussi que Moscou a pour objectif l'imposition d'un statut neutre à l'Ukraine, sa démilitarisation et l'élimination des, entre guillemets, je cite, des nazis qui, selon lui, se trouvent dans le pays.
Quelles sont les cibles exactes de l'armée russe, notamment à Kiev? Nous retrouvons Gauthier Delon-Bugard, l'un de nos envoyés spéciaux. Gauthier, est-ce que l'on en sait un petit peu plus sur ce qui a été visé depuis ce matin?
Alors, d'après nos informations, il s'agit surtout d'infrastructures militaires. C'est bien l'armée qui est visée et non les civils. Et les bombardements qui ont lieu, par exemple, à Brovary, à 25 km de Kiev, qui ont fait 6 morts et 12 blessés, concernaient essentiellement des militaires. Pour l'heure, tout ce qu'on sait, c'est qu'un civil a été tué à Kharkiv, à l'entrée du Donbass, un peu plus à l'est. Et puis, nous sommes toujours donc dans cette ville de Kiev où l'intensité des combats se rapproche. Les Russes ont fait une percée dans cette région. Il se rapproche de plus en plus de la capitale, ce qui inquiète forcément les habitants. Nous avons rencontré tout à l'heure, par exemple, un couple qui a tenté de fuir ce matin par la route avant de rebrousser chemin, car il y avait beaucoup trop de bouchons autour de Kiev. Ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils sont donc revenus chez eux. Ils ont fait des provisions. Ils ont acheté de nombreuses boîtes de conserve, des pâtes pour pouvoir tenir le plus longtemps possible dans la capitale ukrainienne. On a aussi rencontré cette jeune femme. Elle nous dit que si ça se corse, son père viendra à la chercher pour l'emmener un peu plus à l'ouest dans sa famille, dans une région plus sécurisée.
Merci Gauthier Delon-Bugard en direct de Kiev pour RTL. Patrick Martin-Jeunier, vous qui êtes avec nous en studio, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po Paris. À l'instant, le président ukrainien compare à son tour la Russie à l'Allemagne nazie. C'est vraiment, ce mot nazi depuis ce matin est très très employé, que ce soit par Poutine ou là cette fois de la part de l'Ukraine. On a vraiment l'impression effectivement qu'on agite une période très très sombre, le souvenir d'une période très très sombre.
Oui, alors moi je ne qualifierais pas le régime moscovite de nazi parce que c'est tout un régime, c'est une idéologie, n'est-ce pas? Donc avec l'extermination des juifs, donc ce n'est pas du tout le cas. Mais en revanche, manifestement, c'est un homme qui se place dans la position de la guerre froide, qui est dans le schéma de la guerre froide du XXe siècle. Je rappellerai que Vladimir Poutine sera âgé de 70 ans, c'est donc quelqu'un qui a commencé d'abord au KGB, qui a gardé toutes les méthodes soviétiques et qui considère son interlocuteur uniquement pour voir si il peut le tromper, il le teste, il regarde si son interlocuteur a une capacité de résistance ou pas, et dès lors qu'il a une opinion sur sa plus ou moins grande capacité de résistance, sa faiblesse, eh ben, il va y aller. Il a estimé que Joe Biden était faible, et tous les chefs d'État et de gouvernement qu'il a rencontrés, finalement, il n'en avait strictement rien à faire, sa stratégie était déjà définie. S'agissant du terme nazi, en réalité, il considère Vladimir Poutine qu'il y a quelques excités nationalistes d'extrême droite en Ukraine, ce qui est vrai, hein, comme partout dans tous les pays, mais ce n'est pas eux qui sont au gouvernement. On a un régime démocratique dirigé par un président élu démocratiquement, et donc il considère que voilà, il y a un nid de gens qui, en fait, il a lancé un appel en disant aux Ukrainiens, vous, vos pères, vos grands-pères se sont battus pour la Grande Russie, et donc vous, eh ben, vous abandonnez tout ça. Donc, il faut continuer à se battre.
Merci, monsieur Martin Jeunier. Dans une seconde, quasiment, Emmanuel Macron, président de la République, va s'exprimer. On pourra parler également de la personnalité de Zelensky, le président de l'Ukraine, qui est un ancien comédien, mais qui, paradoxalement, fait plutôt bonne figure. C'était pas un rôle, a priori, fait pour lui. On en parle après la pause. À tout de suite.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro,
RTL Midi, édition spéciale.
Il est 13h.
RTL Midi, édition spéciale.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Édition spéciale, vous l'aurez compris, jusqu'à 13h30. Et ensuite, nous pourrons poser des questions, répondre aux questions avec les auditeurs. Et on rappelle l'essentiel avec vous, Agnès Bonfillon, de ce qui se passe depuis ce matin.
Eh bien, par rapport aux bombardements qui ont eu lieu, et pas simplement dans le Donbass de la part de l'armée russe, il y a des conséquences autres, des conséquences immédiates, par exemple, sur les marchés de l'énergie, à commencer, évidemment, par le pétrole. Anaïs Bouissou, Le prix du baril s'est envolé, hein, littéralement, au-dessus des 103 dollars.
Oui, pour vous donner une idée, au dernier relevé du ministère vendredi dernier, on était à 98 dollars le baril. 5 dollars de plus en moins d'une semaine, c'était déjà un chiffre très élevé. Ça l'est encore plus et la conséquence, c'est que les prix à la pompe vont augmenter. Tout peut encore évoluer, hein, mais on parle d'une hausse dès la semaine prochaine de quelques centimes par litre, 2-3 centimes de plus pour un prix du gazole qui est déjà en moyenne d'1,71€ le litre et pour un prix du sans-plomb qui tourne autour d'1,80€ le litre. Écoutez, Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières.
Malheureusement, les prix risquent fort d'augmenter. Hein. Il est très probable que les prix à la pompe continuent à augmenter, mais il n'y a pas d'inquiétude sur les approvisionnements physique, donc sur la disponibilité de carburant à la pompe.
En clair, ça veut dire aussi qu'on évite tous de se précipiter à la première station essence venue. On ne risque pas la pénurie aujourd'hui.
Alors ça, c'est pour le pétrole, hein, mais ce sont les matières premières en général qui subissent de plein fouet une augmentation.
Oui, il faut savoir que la Russie, c'est un peu l'îlot trésor des matières premières, pétrole certes, mais aussi gaz, métaux, blé, maïs. Ce matin, rien que le blé et le maïs ont flambé à l'ouverture des marchés, plus 10, plus 15%. Hier matin, une tonne de blé tendre coûtait 280€. Eh bien, son prix a grimpé ce matin jusqu'à 340€ la tonne.
Et cette flambée des prix, Anaïs, on risque de la ressentir de façon très concrète d'ici quelques jours.
Oui, parce que là, on parle de cours, de bourse, de prix à la tonne, mais derrière, les conséquences, elles vont être très concrètes. Le blé qui flambe, c'est le prix de la nourriture des poulets français, par exemple, qui explose. C'est le prix du pain, le maïs, c'est en partie l'éthanol, donc l'essence, en partie la nourriture des animaux d'élevage et le maïs que vous et moi pourrons consommer. C'est toute la chaîne de la consommation et de l'économie qui risque de trembler, ce que nous expliquait aussi Christiane Lambert de la FNSEA pour les agriculteurs français au micro de Benjamin Sportouche.
Pour l'alimentation animale, déjà depuis un an, l'alimentation pour les animaux a augmenté de 20%.
20%.
Les engrais, la Russie, ouais. le gaz, les engrais c'est ont lié. Augmenté de 79% en un an. Ou si les engrais augmentent encore, les charges seront plus élevées et donc les produits seront plus chers.
Évidemment, la situation reste évolutive en fonction et des nouvelles sanctions de l'Union européenne et des réactions russes.
Merci beaucoup Anaïs. Autre conséquence directe de ce conflit, eh bien, vous nous en parlez depuis ce matin sur RTL, Martial You, c'est la panique sur les marchés financiers.
Oui, on pouvait s'y attendre, effectivement. Le CAC 40 est actuellement en chute de 4,5% à peu près à 6472 points, même tendance sur le DAX en Allemagne. En fait, la plupart des entreprises sont dans le rouge, 35 entreprises sur 40 sur le CAC 40 travaillent directement avec la Russie et 160 000 Russes travaillent sur place pour des filiales d'entreprises françaises. Alors le secteur automobile est touché, notamment Renault avec une chute de l'action d'un peu plus de 8% ce midi. Renault est très présent en Russie puisqu'il possède la marque Lada. On sait que la circulation des pièces détachées, l'approvisionnement des chaînes de montage va devenir compliqué, voire impossible en fonction des mesures d'embargo qui vont être décidées. Je vous rappelle que Peugeot, par exemple, avait dû sortir du marché iranien en 2019 à cause de sanctions économiques. Autre gros acteur qui peut redouter les conséquences de sanctions économiques, le secteur bancaire. Toutes nos banques dévissent en ce moment. La plus exposée, c'est la Société Générale qui possède un réseau en Russie de 235 agences et 2 millions de clients. La Société Générale est en baisse de plus de 10%. Le secteur du tourisme ou du luxe dévisse aussi de plus de 5% en ce moment. Enfin, bien entendu, l'entreprise la plus engagée en Russie, c'est Total, qui est en baisse à la mi-journée de 3,5%, tout comme l'ensemble des entreprises hydrocarbures.
En tant que spécialiste, Martial You et Anaïs Bouissou, restez avec nous puisque nous rejoignons tout de suite Francis Perrin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South. Que dire ? Est-ce qu'on doit s'attendre encore à une flambée dans les prochains jours ? Est-ce que cela va continuer ?
La flambée est déjà là, vous l'avez évoqué dans le sujet que je viens d'entendre. Au moment où nous parlons, le prix du pétrole Brent produit en mer du Nord est d'environ 105 dollars par baril. Nous avons donc passé ce seuil symbolique, hautement symbolique des 100 dollars par baril. Nous sommes donc au niveau les plus élevés pour les prix du pétrole depuis 2014, soit depuis 8 ans. 2014, d'ailleurs, où il y avait la première guerre russo-ukrainienne, ce n'est pas tout à fait une coïncidence. Les prix du gaz sont également orientés à la hausse, vous l'avez évoqué, et ce n'est pas évidemment forcément fini, malheureusement. Les prix avaient déjà commencé à monter lorsqu'il y avait la crise russo-ukrainienne dans ces dernières semaines. Maintenant, ce n'est pas seulement une crise, c'est malheureusement une guerre, et donc nous avons franchi ce seuil symbolique. Et nous avons des raisons de penser qu'on pourrait monter encore évidemment plus haut. Et cela veut dire que certains pays occidentaux, notamment les États-Unis, vont essayer de mobiliser des pays producteurs de pétrole et de gaz, autres évidemment que la Russie, pour savoir si ceux-ci pourraient mettre plus de pétrole et de gaz sur le marché dans les semaines qui viennent. Mais ce n'est pas gagné d'entrée de jeu.
Monsieur Perrin, j'écoutais hier Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, et qui disait qu'il n'y aurait pas de conséquences pour la France, puisque nous sommes à l'abri, notamment avec notre énergie nucléaire. Est-ce que vous validez ce raisonnement ?
Alors, je pense qu'il est exact de dire que parmi les pays membres de l'Union européenne, la France est l'un des pays les mieux placés pour affronter les conséquences énergétiques de la situation actuelle et sans doute future. Du fait, effectivement, du poids du programme nucléaire, qui représente la majeure partie de l'approvisionnement en électricité, du fait aussi que nous sommes moins dépendants de la Russie pour nos approvisionnements gaziers que la moyenne de l'Union
européenne. C'est à hauteur de 20%, paraît-il, en France, alors que l'Allemagne, c'est 55%, c'est ça ?
Tout à fait. Et pour la moyenne de l'Union européenne, on est à un taux de dépendance par rapport aux importations russes qui est de l'ordre de 35, 40%, 45%. Et effectivement, 20% au maximum pour la France. La France est également un pays qui, ayant des façades maritimes, peut importer du gaz naturel liquéfié transporté par bateau venant d'autres pays que la Russie. Et nous avons des stocks de stratégiques de gaz naturel. Donc nous serions moins touchés en cas d'impact négatif de la guerre sur les exportations pétrolières et gazières, surtout gazières de la Russie. Par contre, nous n'échapperons pas à quelque chose à laquelle personne ne va échapper, c'est la flambée des prix du pétrole et du gaz. Ça, les Français le paieront, comme les Européens, comme l'ensemble du monde. Nous sommes sur des industries très mondialisées.
Et c'est ce que vous expliquiez effectivement en début d'intervention. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South. Agnès Bonfillon.
À 13h08 sur RTL pour cette édition spéciale. Nous repartons à Kiev rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Mourad Djabari. Vous vous trouvez dans les rues de la capitale. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance.
Alors en fait, les rues de Kiev, il faut imaginer un ciel bas, la neige fondue qui tombe un peu, le froid, un vent capable de vous faire effacer le visage vu son intensité. Bref, dans les rues de la capitale, c'est le silence qui règne, un silence pesant qui crée une ambiance vraiment anxiogène, un silence troublé parfois par des bombardements sourds au loin. Il n'y a personne dans les rues, pas de piétons, de passants, de voitures, les crèches, les écoles, les magasins non alimentaires, tout est fermé. Les transports en commun sont gratuits aujourd'hui, mais il n'y a personne. Et pour ceux qui sont dehors, les visages des habitants sont fermés, les mines graves. Certains poussent d'énormes valises, tentent de rejoindre des régions plus sûres pour être en sécurité. Des mamans, des couples, des personnes âgées ont les bras chargés de courses. Ils vont à l'épicerie du coin pour se ravitailler si les prochaines heures se durcissent. D'autres viennent à la fontaine municipale prendre de l'eau, remplir d'immenses bidons. Bref, la panique s'empare peu à peu de la ville et les habitants, après avoir entendu et qu'ils entendent en ce moment même ces bombardements proches de la capitale, ils commencent tout simplement à s'organiser.
Merci Mourad Djabari en direct de Kiev pour RTL. Nous voulions également vous faire entendre ce témoignage de Jérémy. Jérémy, c'est un Français qui est expatrié en Ukraine pour son travail. Il habite environ à 25 km de Kiev. Et ce matin, il est allé en voiture chercher sa belle-famille au centre de la capitale. Il a vu, là aussi, toute une ville tenter de fuir. Écoutez.
Kiev entier s'en va. Je n'ai jamais vu autant de voitures de ma vie et même ceux qui n'ont pas de voiture, ils vont à pied sur l'autoroute. J'ai vu des gens qui faisaient du stop, mais pas une ou deux personnes. C'est 3 000-4 000 personnes qui sont sur les rebords pour faire du stop. Je ne cache pas que moi aussi je l'ai fait. J'ai grillé des feux rouges, j'ai même voulu prendre l'autoroute en sens inverse parce que s'il y a 2, 3, 4 millions de personnes qui veulent aller en Europe, en temps normal ça prend 5 heures. Combien de temps ça va prendre maintenant avec des millions de personnes? Il faut un tri, il faut faire quoi? Il faut les passer comme ça, sans contrôler les passeports. C'est impossible.
Jérémy qui est expatrié en Ukraine. Et si vous nous rejoignez à l'instant, il est 13h10, vous êtes peut-être étonné de ne pas entendre les auditeurs. Sachez que nous sommes en édition spéciale et c'est qu'à partir de 13h30 que vous pourrez intervenir sur l'antenne. Une pause peut-être et nous revenons dans une seconde.
RTL Midi, édition spéciale.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale.
Édition spéciale pour suivre cette guerre en Ukraine. Dans quelques instants, Emmanuel Macron doit prendre la parole à l'allocution du président français à la nation, notamment après le Conseil de défense qui a eu lieu ce matin à l'Élysée. D'autres dirigeants prennent la parole au fur et à mesure. Par exemple, Boris Johnson, lui, qualifie Vladimir Poutine de dictateur à l'instant. Le Premier ministre britannique qui prévient également l'Union européenne fera tout. Les Occidentaux, dit-il plus précisément, ce sont ces mots exacts, les Occidentaux vont imposer des sanctions massive à la Russie. Voilà ce que dit Boris Johnson. Je voulais vous poser cette question, Patrick Martin-Jeunier, par rapport à toutes ces déclarations que l'on entend depuis ce matin. Hein. Tout le monde est évidemment sur la même ligne.
Oui, bien sûr, c'est une exigence politique d'être unanime sur la condamnation. Ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson, qui, comme vous savez, a des ennuis sur le plan de la politique intérieure, eh bien, a été très ferme, il parle d'un dictateur. Oui, nous ne sommes plus en présence d'un dirigeant qui aurait été élu démocratiquement, pas du tout. Ça a été une démocrature, et puis maintenant, c'est une dictature. Très carrément, la façon dont la Douma a voté cette reconnaissance des républiques séparatistes, à l'unanimité l'intervention, fait que c'est quelqu'un, effectivement, qui ne peut plus être reconnu par la communauté internationale comme un leader responsable. Boris Johnson, et sans doute cet après-midi, on a vu Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, être très dur, et tous les chefs d'État et de gouvernement seront également très durs cet après-midi au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement.
Vincent de Rosier, qui était à l'Élysée tout à l'heure, disait que la France pourrait donner des armes à l'Ukraine, peut-être d'ailleurs est-ce des javelines, mais j'entendais en parallèle ce que disait ce matin Vladimir Poutine. Il menaçait l'Occident, il menaçait notamment les pays qui pourraient aider l'Ukraine, et il annonçait des sanctions telles qu'ils n'en ont encore jamais connues dans leur histoire. Ouais. C'est sa phrase. Faut-il s'inquiéter pour la France ?
Ah, je pense que oui, c'est très très inquiétant. Il est en train de nous dire finalement, non seulement vous n'interviendrez pas militairement sur le terrain, mais Joe Biden l'avait dit, il est hors de question d'envoyer un soldat de l'OTAN en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Mais en revanche, lorsqu'on entend Boris Johnson ou le président des États-Unis, on n'a pas encore entendu Emmanuel Macron dire qu'on va envoyer encore des soutiens logistiques et matériels, ça veut dire très clairement qu'on va envoyer des armes. Oui. Et lorsqu'on entend Vladimir Poutine, le simple fait d'envoyer des armes, ça pourrait être considéré comme une déclaration
mais
de guerre.
Mais ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire très clairement que, il pourrait y avoir des frappes, ça pourrait être la guerre en Europe. Considérant qu'un pays européen, membre de l'OTAN, et puis le Royaume-Uni, évidemment, continue à être membre de l'OTAN, eh bien, des aides logistiques, matérielles et des armes qui pourraient entraîner effectivement des conséquences d'ordre militaire, pourraient entraîner une riposte militaire.
Et quand vous dites russe, en Europe, ça pourrait être en France, disons-le
eh bien,
clairement.
Disons très clairement.
À l'armée, les auditeurs qui peuvent nous écouter, c'est ça que ça veut dire.
Je pense que Vladimir Poutine visera les États qui directement vont aider militairement. Donc si jamais on disait on va alimenter l'Ukraine avec des armes, on pourrait être menacé d'une attaque naturellement militaire en France, voire en Pologne. C'est la Pologne en réalité qui serait la première visée, parce que quand on regarde ici les cartes, on voit bien que Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, sur laquelle d'ailleurs les Russes sont intervenus, est à quelques dizaines de kilomètres de Pologne. Donc on pourrait très bien envisager une frappe militaire russe sur le territoire polonais, et ce serait là effectivement une attaque directe contre l'OTAN qui pourrait entraîner une riposte solidaire de l'ensemble des autres États. Mais dès lors que le Royaume-Uni ou la France éventuellement accepterait de continuer une aide militaire à l'Ukraine, cela pourrait effectivement, on pourrait avoir une menace d'intervention militaire sur la France.
Et puisque l'on parle des forces militaires russes, Jean Guinel est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point et spécialiste hein, des questions militaires, et justement on voulait avoir un petit peu votre éclairage sur est-ce que finalement l'Ukraine a la capacité de résister, de riposter ?
Une attaque comme celle qui est en cours en ce moment avec des forces qui sont supérieures à celles de sa propre armée et des équipements considérables et une tactique éprouvée et des forces entraînées, et on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire les Russes rentrent comme dans du beurre en Ukraine, et les les informations qu'on recueille maintenant là de sources ouvertes et de gens qui analysent les images qui arrivent sont particulièrement inquiétantes. C'est-à-dire qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. C'est clair.
Et on parlait également peut-être d'autres pays visés. Si d'autres pays apportent une aide à l'Ukraine, ils risquent d'être également la cible de l'armée russe. On a du mal un petit peu à imaginer ce que ça peut donner. Pascal l'a parlé de conflits ouverts, pourquoi pas en France ?
C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les autres pays d'Europe de l'Est qui pourraient être frappés par les Russes, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne notamment. Ils ont une différence fondamentale avec l'Ukraine, c'est qu'ils font partie de l'OTAN. Et attaquer ces pays-là de la part des Russes, ça, logiquement, ça entraînerait une riposte de l'OTAN. Alors, effectivement, la France fait partie de l'OTAN. Et si l'OTAN devait riposter à une nouvelle attaque des Russes contre un pays appartenant à l'Alliance cette fois, les Français seraient concernés. Oui, ils le sont déjà, de toute façon. Une guerre de ce type, qu'on n'a pas vue depuis des décennies.
Depuis la Bosnie-Herzégovine, la dernière fois qu'il y a eu en France, en Europe, une guerre sur le territoire européen.
Oui, une guerre. Vous avez raison de dire que c'est la dernière guerre dans les guerres des Balkans sont des guerres sur le territoire européen. Mais là, c'est une attaque massive par un pays étranger qui vient attaquer un État souverain, membre de l'ONU et tout ça. Les Balkans, c'était quand même différent. C'était, ça avait un aspect à discuter, mais il y avait quand même un gros aspect guerre civile. C'était la dislocation d'un État qui, avec des velléités d'indépendance de ses différentes parties. C'est un peu différent quand même. Là, cette fois, c'est une des quelques armées du monde les plus puissantes. C'est une puissance nucléaire dirigée par un cinglé. Donc on ne sait pas où on va là, franchement.
Bon, c'est pas rassurant de vous entendre, Jean Guinel, à 13h18 sur RTL. Mais vous avez raison.
Je crois qu'il faut être lucide. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre, mais si on manque de lucidité, on risque d'avoir de très très mauvaises surprises.
Alors la lucidité, on peut l'avoir. Ce dont tout le monde parle ce matin, c'est que faut-il faire ? Puisque la négociation diplomatique manifestement ne réussit pas, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour enrayer les actions de M. Poutine ?
Eh bien, Monsieur Poutine, s'il s'en tient à l'Ukraine, ou même s'il ne s'en tient pas à l'Ukraine, il néglige le fait qu'il attaque un pays grand comme la France, ou presque, il est un pays avec des dizaines de millions d'habitants, 40 je crois, les gens qui partent flamberge au vent, y compris les Russes en Afghanistan, y compris les Américains en Afghanistan ou en Irak, et y compris d'autres invasions qu'on a vues se terminer, comme on le sait, il va subir des dommages importants une fois que la situation sera un petit peu stabilisée. S'il entend occuper le pays, c'est totalement déraisonnable.
Que faut-il faire, c'est quelle réponse pour l'Europe, quelle réponse des États-Unis, quelle réponse de l'OTAN, et on tourne autour de ces questions depuis une semaine.
Oui, mais quand vous êtes à ce niveau d'agression, la seule vraie réaction, c'est la réaction militaire, c'est la guerre.
Donc c'est l'OTAN.
Ben oui, mais l'OTAN peut pas intervenir en Ukraine pour l'instant.
Donc qu'est-ce
qu'on
fait ?
C'est pas son territoire, c'est... Pardon ?
Donc, quelle solution ? Les sanctions économiques, nous dit-on, ne servent à rien. Les négociations diplomatiques, nous dit-on, ne servent à rien. Vous dites, faut intervenir militairement, je vous dis l'OTAN, et à ce moment-là, l'OTAN ne peut pas intervenir en Ukraine. Donc, quelle solution aujourd'hui ?
Souvenez-vous de la formule d'un... On a connu, en 1981, une agression de la Russie avec la Pologne. C'était une agression qui n'a pas... Il n'y a pas eu d'ouverture du feu significative. Mais elle a envahi la Pologne. Et le ministre français des Affaires étrangères à l'époque, qui s'appelait Claude Cheysson, à qui on posait la question « qu'allons-nous faire ?», il a répondu « rien, évidemment ».
Exactement. Ce « rien, évidemment » est resté célèbre dans l'histoire diplomatique, j'ose dire. Monsieur Martin Genier, mais cette question est essentielle.
Oui. Oui, bien sûr.
Et elle n'a pas de réponse.
Disons qu'on s'apprête à prendre des sanctions économiques extrêmement sévères. La vice-présidente américaine a dit samedi dernier que ce seraient des mesures sans précédent. Donc, ces mesures, je crois qu'aujourd'hui, il faut être très clair. À défaut d'intervenir militairement, il faut provoquer un embargo financier, économique, commercial, total vis-à-vis de la Russie.
Mais j'écoutais Martial Yu hier matin qui nous expliquait qu'il y a eu un embargo pendant plus de 50 ans à Cuba, que l'Iran est sous embargo depuis 1995, que c'est jamais efficace.
Non, c'est pas efficace à 100%, mais si vous visez effectivement les grands groupes, par exemple, l'accès au système de paiement international SWIFT, cela peut avoir un impact sur l'économie. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne parle pas du peuple russe en l'espèce. Que pensent les Russes de cette aventure? Alors, on nous dit on n'est pas capable d'aller savoir son opinion. Ben oui, on ne sait pas, puisque c'est une dictature. Ils ne peuvent pas s'exprimer, mais vous avez quand même, comme partout, des jeunes générations qui n'ont pas envie d'aller dans le bourbier d'une guerre lorsqu'ils verront revenir des cercueils de leurs proches de l'Ukraine. Là, ils vont commencer à réfléchir. Et je ne pense pas que Vladimir Poutine, eh bien, finalement, soit à l'abri d'un éventuel coup de palais, coup de révolution de palais, si jamais ça tournait mal. Par ailleurs, il est vrai, vous avez raison, il a fait un accord stratégique avec la Chine le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques en signant des accords commerciaux formidables, c'est vrai, et en évitant de les libeller en dollars de telle sorte qu'ils puissent pas être handicapés par le fait de ne pas avoir accès au système de paiement international. Donc c'est vrai qu'il y a un problème d'efficacité, mais je crois qu'aujourd'hui il faut y aller franco sur ces sanctions économiques et financières.
Et j'ajoute que Emmanuel Macron a eu au téléphone Volodymyr Zelensky deux fois dernièrement, donc hier soir et ce matin à 8h. Le président Zelensky a demandé des initiatives auprès de la Russie, donc des initiatives diplomatiques.
Oui, mais on a bien vu malheureusement que la diplomatie ne fonctionnait pas. Lorsque vous êtes agressé, lorsqu'on vous déclare la guerre, il n'y a plus la place pour la diplomatie. Il y a simplement la place pour la force. Maintenant, c'est la force, ce sont les sanctions qu'il faut montrer. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu le courage de se rendre à Moscou, comme le chancelier allemand. C'était tout à fait légitime, nous sommes une grande puissance. Mais on a vu que la diplomatie ne fonctionnait plus. Le temps aujourd'hui, c'est la force, la riposte, et la riposte sans trembler.
Merci à Jean Guinel qui était avec nous, qui est journaliste au Point, spécialiste des questions militaires. Le nom de Zelensky a été prononcé à l'instant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis 12h30. C'est important de dire la personnalité de Zelensky. C'est un comédien. Il y a quelques années, il était encore sur scène. Et paradoxalement, il fait plutôt bonne figure aujourd'hui, alors que rien ne le prédestinait à diriger l'Ukraine, notamment en temps de guerre. Il avait joué le rôle d'un président dans une série qui était diffusée en Ukraine. Et le public aimait tellement cette série qu'elle l'a élu président de la République.
Oui, c'est un homme très agréable, un acteur très apprécié, élu président de la République à 41 ans. Il était, comme vous dites, scénariste, humoriste, acteur. Et c'est quelqu'un qui a effectivement joué dans cette série Serviteur du peuple. Serviteur du peuple en disant, voilà, il a joué le président ukrainien. Et qui était diffusé sur une chaîne très connue, la chaîne 1+1 ukrainienne, une des chaînes les plus regardées là-bas en Ukraine. Et ça a beaucoup plu. Et de fait, il s'est dit, puisque le régime de Poroshenko n'allait pas très bien, je vais me présenter. Et figurez-vous que le parti politique qu'il a créé s'appelait exactement comme la série télévisée Serviteur du peuple. Et donc cela a été apprécié. Il a dénoncé surtout, vous savez, comme les outsiders, il a dénoncé la corruption du régime. Et tout ça, finalement, comme on a vu que c'était quelqu'un qui était un humoriste à l'extérieur du système, eh bien, ils l'ont élu président de la République. Un peu comme cet humoriste en Italie, je ne sais pas si vous connaissez, Beppe Grillo, qui effectivement a été complètement loufoque, mais qui a amené son parti.
Il est plus sérieux, lui, ce Zelensky, parce que Beppe Grillo.
Et Zelensky a été élu avec 70% des voix au deuxième tour. Voilà. Et aujourd'hui, de nombreux dirigeants sur la planète reconnaissent son énorme sang-froid.
Voilà. Exactement, c'est ça qui est un des paradoxes de cette situation.
Vous le savez, on attend l'allocution d'une minute à l'autre maintenant d'Emmanuel Macron. On nous avait dit 13h, puis 13h15. Là, visiblement, c'est plus 13h30.
Il est souvent en retard, le président de la République.
Tous les dirigeants prennent la parole, évidemment, au fur et à mesure. Joe Biden, lui, doit s'exprimer dans l'après-midi, heure française. Cela faisait plusieurs jours, on le sait, on a parlé avec nos invités, que les États-Unis se montraient alarmistes, une offensive, ils s'y attendaient, mais uniquement dans le Donbass. Là, d'autres villes sont visées, on l'a entendu. Direction New York, où nous retrouvons notre correspondant Lionel Gendron. Alors Lionel, face à la situation, le président américain peut-il encore durcir tout à l'heure sa position ?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va annoncer des sanctions plus importantes. Les premières avaient été jugées légères. Quant à la question que tout le monde se pose, est-ce que les États-Unis vont intervenir militairement ? A priori, ce n'est pas l'ordre du jour. Joe Biden a répété à plusieurs reprises qu'il ne mettrait pas des soldats américains face aux soldats russes. Ça déclencherait, dit-il, une guerre mondiale. Alors, il y a déjà des soldats américains en Europe, près de 90 000, dont un gros tiers en Allemagne. Plusieurs milliers vont apporter un soutien logistique et des conseils militaires. Des armes vont être à nouveau livrées par Washington, mais une intervention américaine plus directe, ça paraît très peu probable, car Washington s'attendait à cette invasion, peut-être pas avec cette violence, mais la position était déjà définie. Si un autre pays que l'Ukraine devait être attaqué, un pays membre de l'OTAN, là ce serait encore une autre histoire.
Et après le Conseil de sécurité, hier, l'ONU a prévu une nouvelle réunion dès demain, Lionel.
Alors les États-Unis doivent présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité tout à l'heure, condamnant la Russie. Il devrait passer au vote demain. On peut déjà prévoir le veto russe en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, voire l'abstention de la Chine. Le texte serait alors soumis à l'Assemblée générale, c'est-à-dire à tous les membres. Les résolutions de l'Assemblée générale sont non contraignantes. Ce sera donc symbolique. L'ONU va isoler diplomatiquement la Russie, mais ce n'est sans doute pas là que la fin de la guerre va se jouer.
Merci Lionel Gendron, notre correspondant à New York. Nous repartons à Kiev où nous attend Gauthier Delon-Bugard, l'un de nos envoyés spéciaux. Gauthier, depuis une heure, plus de bombardements pour l'instant ?
Absolument pas de nouveaux bombardements, mais les troupes russes sont désormais clairement aux portes de Kiev. Elles ont fait une percée dans la région de la capitale ukrainienne et on observe toujours des mouvements de panique depuis ce matin dans la ville. Des familles montent dans leurs voitures à la hâte avec seulement quelques bagages pour fuir. Les automobilistes se ruent dans les stations-service pour faire le plein avant de quitter la ville. Et puis, il y a ceux qui refusent de partir ou qui ne le peuvent pas. Dans ce supermarché, Olga est venue faire le plein de provisions avec son fils.
Nous dira les dernières nouvelles de l'Élysée puisqu'on attend l'intervention d'Emmanuel Macron. Nous marquons une pause, à tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale.
Et nous attendons d'une minute à l'autre maintenant, depuis 30 minutes, l'intervention d'Emmanuel Macron, Benjamin Sportouche. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on devine ce que va dire le président de la République ?
Bien, écoutez, deux choses sont envisagées visiblement par le président de la République. D'abord, eh bien, lundi, faire lire un message devant les assemblées, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pas réunie en congrès. Il aurait pu avoir cette possibilité, mais visiblement il ne le fera pas, étant donné la période électorale, probablement. Ça sera lundi, il fera lire un message, et le lendemain devant les assemblées, eh bien un débat sans vote, c'est l'article 50 de la Constitution. Juste pour lundi, ce message qui sera lu du président de la République, c'est assez rare, c'est même très rare. Il faudra vérifier quand cela a eu lieu dans le passé, mais c'est une démarche très inhabituelle. Ce matin, vous avez vu quand même les premières images, et c'est aussi là très rare, du PC Jupiter, hein, du PC Jupiter qui est situé sous l'Elysée au président de la République.
C'est quoi, c'est une war room en
tout
fait ?
Tout à fait, ouais. C'est une war room, quand on dit en bon français. C'est là qu'ont été réunis plusieurs ministres, le Premier ministre, mais également Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, Florence Parly, la ministre de la Défense, mais également Jean-Yves Le Drian. Et donc, ils étaient convoqués. Et on a vu des images avec le son, ce qui est assez rare, où on entend donc très clairement le président de la République et dire qu'il a appelé le président ukrainien, qui lui a demandé l'assistance de l'Europe et une solidarité européenne. Des images qui ont été diffusé sur le compte Twitter de l'Élysée ce matin même.
Est-ce que Emmanuel Macron prendra très au sérieux les menaces de Vladimir Poutine, de rétorsion qui pourrait exister sur des pays qui aideraient l'Ukraine?
Bien sûr, tout ça va être pris en compte. Pour être très clair, c'est vrai que ce n'était pas dans l'esprit d'Emmanuel Macron la semaine dernière. On espérait une solution diplomatique, il espérait avoir convaincu le président russe, il espérait que la désescalade soit présente. D'ailleurs, c'est un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises. Il aurait été présenté en homme de paix au moment où il dirige le Conseil quand même de l'Europe, ce qui n'est pas rien pour la présidence française de l'Union européenne. Eh bien, cet objectif finalement n'est pas celui qu'il espérait. Et maintenant, il va devoir faire avec un homme qui est imprévisible, en l'occurrence Vladimir Poutine.
Patrick Martin-Genier, restez avec nous. Le président de la République s'exprime à l'instant, me dit-on. Dans quelques instants encore, le président de la République prendra la parole.
Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise, en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont faits et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement. Et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent, afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Vive la République et vive la France.
L'air très grave, hein, Emmanuel Macron, cravate noire, chemise noire. Des mots,
chemise blanche, veste noire,
et chemise blanche, effectivement. Emmanuel Macron, cette allocution d'un air effectivement très grave avec vous, Marie, avec vous, Bénédicte Tassard, je vais y arriver. Peut-on revenir un petit peu sur ce qui s'est dit à l'instant?
Oui, alors un air grave, vous l'avez dit, la France est aux côtés de l'Ukraine, le courage, la détermination des Ukrainiens a été salué, mais surtout le président de la République public prend bien le conscience de et nous donne bien l'ampleur de ce qui nous attend. La liberté des Ukrainiens est la nôtre. Nous allons répondre sans faiblesse, avec unité. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'Europe et cela aura des conséquences sur nos vies à nous, Français. Le président de la République qui dit vouloir nous protéger sans relâche. J'ajoute aussi, il y a quelque chose sur les sanctions, il y a quelque chose de nouveau. Il a parlé donc des sanctions qui seront à la hauteur envers la Russie, il a parlé de sanctions au niveau de l'énergie. Donc va-t-on couper le robinet du gaz russe? C'est à voir ce soir.
Sanctions militaires, économiques et énergie, vous l'avez dit, c'est Vladimir Poutine a porté l'atteinte la plus grave depuis des décennies. Ça fait partie évidemment des phrases que l'on retiendra, tournant dans l'histoire de notre pays, Benjamin Sportouche.
Oui, on retient aussi ces derniers mots, ne cédons rien, et un appel à l'unité nationale. En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé, ne cédons rien de notre unité. On est en période électorale, c'est un message, on verra s'il est entendu ou pas, mais c'est compliqué, bien évidemment, parce que chacun va défendre ses positions, vous savez qu'elles peuvent diverger, on a entendu Éric Zemmour qui était critique tout à l'heure, donc la campagne présidentielle prend un tournant totalement différent de ce qu'on pouvait attendre. Elle était déjà assez atone, disons-lui, puisque le président de la République n'était pas encore entré en campagne. Et là, elle prend un tournant totalement inattendu avec cet appel à l'unité derrière le président et derrière ses efforts pour éventuellement une diplomatie ou en tous les cas faire en sorte que le conflit n'aille pas au-delà des frontières ukrainiennes.
Une chose que nous n'avons pas dite, le président de la République s'exprimait devant le drapeau ukrainien. manifestement, il y avait le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine comme un symbole en direct de l'Élysée. Il est 13h38, je ne sais pas si nous allons être avec les auditeurs dans quelques secondes. Et en tout cas, remercier l'ensemble de la rédaction d'RTL, remercier Sophie Orange, bien sûr, qui était à la manœuvre en régie, remercier Bénédicte Tassard, tous nos envoyés spéciaux sur place qui font preuve de professionnalisme, mais aussi de courage. Agnès Bonfillon.
Oui, merci à Patrick Martin-Genier d'être resté avec nous en studio également. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO.
Merci.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Appelez-nous au 32 10. À tout de suite après une pause. RTL.